Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Facebook, persona non data. Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook, auditionné hier par le Sénat américain, attendu aujourd'hui à la Chambre des représentants pour répondre des graves erreurs qui ont été commises dans le scandale Cambridge Analytica. Vous savez, l'entreprise chargée de la campagne numérique de Donald Trump. Grâce à Facebook, cette société avait collecté sans leur consentement les données de 87 millions d'utilisateurs, dont 200 000 Français, avec aujourd'hui des conséquences d'ailleurs difficile à mesurer. Bonjour Amel Guiton, vous êtes journaliste à Libération, spécialiste des enjeux politiques et sociaux numériques. Vous avez suivi d'ailleurs cette audition de Mark Zuckerberg. Qu'est-ce que vous en avez retenu?
Alors déjà, il y a toujours le côté presque exotique finalement pour un Français de ces auditions devant des commissions du Congrès avec des grands patrons passés sur le grill comme ça. Ça rend un petit peu jaloux, faut le reconnaître. Là où c'était intéressant, c'est qu'il y avait évidemment la aspect symbolique. C'est la première fois que Zuckerberg se rend au Congrès, c'est inédit au moment...
C'est la première fois qu'il met une cravate.
Et c'est la première fois qu'il met une cravate aussi de manière publique, mais c'est vrai qu'au moment où il y avait toutes ces auditions sur l'ingérence russe, il avait envoyé son responsable juridique. Bon, là, il avait manifestement plus le choix, il fallait y aller. On navigue toujours entre des parlementaires qui, pour certains, sont quand même assez déconnectés des réalités techniques, avec des questions parfois un peu étranges. Et puis quand même des questions qui l'ont manifestement un peu dérangé.
Lesquelles?
Tout à l'heure, dans le journal, était citée la question d'un démocrate de l'Illinois qui lui a demandé s'il serait d'accord pour dire dans quel hôtel il avait dormi la nuit dernière. Mais il y a eu aussi pas mal de questions sur la position monopolistique finalement de Facebook avec un sénateur républicain, si mes souvenirs sont bons, qui disait est-ce que vous êtes une entreprise de technologie ou est-ce que vous êtes tout simplement l'éditeur le plus puissant au monde aujourd'hui. Donc il y avait quand même des questions qui fâchaient.
C'est une vraie question, puisque les chiffres donnent le vertige. 87 millions d'utilisateurs. Il y a la même chose en Inde, avec, on imagine, des chiffres qui vont être encore plus astronomiques, puisque ça n'est pas le seul pays, évidemment, je le précise, où Facebook est présent. Et du coup, on se dit qu'aujourd'hui, du fait de l'effet réseau à Maël Guiton, il est quasiment impossible d'imaginer à brève échéance, en tout cas, le déport de ces personnes qui sont sur Facebook, c'est-à-dire nous-mêmes, sur un autre réseau social.
D'une certaine manière, j'ai parfois l'impression que Facebook a presque stérilisé notre imaginaire. Ce qui est très frappant, c'est que dans toute cette séquence là qui a commencé, je dirais avec la mise en cause de Facebook dans la viralité de ce qu'on appelle les fake news, autrement dit la désinformation, les fausses nouvelles, etc., qui s'est poursuivie avec l'enquête sur l'ingérence russe et qui se poursuit et monte en puissance véritablement avec le scandale Cambridge Analytica, parce que c'est... Je pense qu'il y a un changement d'échelle. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a une prise de conscience beaucoup plus large que précédemment. Mais on voit bien qu'on arrive aux limites, finalement, du modèle Facebook. Pour deux raisons. C'est que, d'une part, on se rend compte de ce que signifie leur modèle publicitaire, la monétisation, comme on dit, des données personnelles et des conséquences que ça a, notamment sur le partage de ces données personnelles avec des acteurs tiers, qui est le problème posé par Cambridge Analytica. Et d'autre part, une question d'infrastructure, tout simplement. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut imaginer raisonnablement un réseau social avec 2 milliards d'individus qui fonctionne bien en étant géré par une entreprise privée de surcroît de droit américain? Moi, je suis assez fermement convaincu du contraire. Donc, on voit bien qu'on touche aux limites du modèle. Effectivement, la question, c'est qu'est-ce qui peut en sortir? Est-ce que des alternatives sont possibles? On ne va pas avoir une fuite d'utilisateurs de Facebook du jour au lendemain. Ça, j'y crois assez peu. Mais l'émergence de contre-modèles, il faut en tout cas le souhaiter. Oui.
La question de la nature de l'entreprise Facebook est une question extrêmement intéressante, puisque fut un temps, on parlait donc de l'hégémonie de Windows sur l'informatique. Cette hégémonie, elle a été largement combattu par Linux, par le monde du logiciel libre, qui est un monde absolument passionnant. Pourquoi ne pas imaginer, par exemple, que ce monde du logiciel libre tente de développer quelque chose qui constitue une alternative à Facebook?
Mais il y a des tentatives. Il y a eu des tentatives ces dernières années. Alors notamment, il y a un réseau qui s'appelle Diaspora, qui est voulu comme une alternative à Facebook. On a eu plus récemment Mastodon, qui n'est pas exactement pensé comme voulu comme une alternative à Twitter, mais qui en tout cas remplit le même type de fonctionnalité. Souvent, le problème est double. C'est-à-dire que c'est quand même pas tout à fait aussi user-friendly, comme on dit, c'est-à-dire que l'usage n'est pas aussi simple. Et puis effectivement, il y a cette expression dans la texte, c'est « winner takes all », c'est-à-dire que c'est le premier qui arrive, qui s'installe. Après, c'est très, très difficile pour les autres, sauf à imaginer de faire encore mieux. Donc, effectivement, on voit que le problème est robuste. Et en même temps, on voit bien aussi qu'il y a toute une série de difficultés. Aujourd'hui, moi, quand j'entends Zuckerberg hier insister à plusieurs reprises vraiment sur le fait qu'il va falloir utiliser de plus en plus d'intelligence artificielle pour détecter des contenus choquants ou illégaux, etc., c'est-à-dire confier la régulation de la parole publique à des algorithmes, je trouve ça quand même assez prodigieusement inquiétant.
Mais vous pensez qu'il l'a dit aussi parce qu'il voulait justement menacer, sinon le Congrès, du moins les utilisateurs, en disant finalement il vaut mieux que ce soit moi qui ai a priori l'intention de faire le bien. Quand on a l'intention de faire le bien, c'est déjà un début. Bon, ça n'est pas quelque chose de suffisant, mais en tout cas, cette intentionnalité, elle compte. Donc il vaut mieux que ce soit moi qui soit en charge de ces données personnelles plutôt qu'un autre.
De toute façon, c'est d'une certaine manière, ça peut pas être Mark Zuckerberg qui lui-même remet en cause son modèle économique. Enfin, moi, j'étais très frappée de voir qu'il y avait des questions justement sur qu'est-ce que vous penseriez de la régulation, qu'est-ce que vous pensez de la nature de Facebook, etc. C'est lui poser la question à lui. Enfin, c'était évidemment un peu vertigineux. Il défend aussi évidemment son modèle économique. Il défend sa place. Est-ce qu'il y a une part de naïveté? On peut pas l'exclure hein, quand on l'entend dire, nous sommes une entreprise optimiste et idéaliste. Moi, je ne mésestime jamais la capacité des gens de la Silicon Valley, y compris à s'auto-aveugler. Mais il y a aussi une pression du politique. Hein, je parlais de régulation par les algorithmes et de développement de l'intelligence artificielle. Il y a une pression politique à ça, qui est une vraie difficulté.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'on voit bien que dans tous les débats qu'il y a aujourd'hui, que ce soit sur effectivement les fausses nouvelles ou le contenu de propagande terroriste, de manière générale, ce sont des questions qui échappent de plus en plus à la régulation par la justice, hein, qui est la régulation traditionnelle de la parole publique, pour aller vers des demandes de, entre guillemets, proactivité de ces acteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le politique leur demande de mettre de plus en plus d'algorithmes de détection. Et on voit bien aussi, évidemment, les questions que ça pose en termes de liberté publique.
Alors, il faut dire tout de même, il y a une évidence aujourd'hui pour tous ces services informatiques, Amel Guiton, c'est que lorsqu'un service est gratuit, c'est que la donnée c'est vous, et plus précisément vos données. Peut-être que ça mérite d'ailleurs deux ou trois illustrations, cette règle qui est devenue une règle d'airain pour la nouvelle économie.
C'est le scandale Cambridge Analytica, finalement, ça n'est que l'aboutissement de ça. C'est-à-dire qu'on a un acteur qui est Facebook, qui accumule, qui centralise hein, des quantités absolument astronomiques de données, et qui rend effectivement un service gratuit. Donc il n'y a pas 12 000 manières de le financer. C'est financé par la publicité ciblée. Alors, Zuckerberg a beaucoup, beaucoup, beaucoup insisté hier sur le fait que Facebook ne vend pas les données. C'est vrai que techniquement, Facebook ne vend pas les données. Facebook les met à disposition. Le problème, c'est qu'il y a eu pendant toute une période et jusqu'à aujourd'hui, un partage de ces données avec ce qu'on appelle les applications dites tierces. C'est-à-dire que tous ces sites, tous ces applis auxquels vous vous inscrivez avec votre compte Facebook. Bon, à ce moment-là, vous partagez vos données. Et alors, jusqu'à la fin 2014, c'était totalement open bar, c'est-à-dire qu'elles aspiraient aussi les données des amis des utilisateurs. C'est ce qui s'est passé dans le cas de Cambridge Analytica. C'est aussi ce qui s'était passé avec l'équipe de campagne d'Obama en 2012. On a vu quand même un certain nombre de républicains remettre ça sur le tapis en disant « vous vous reprochez à la campagne Trump de l'avoir fait, mais enfin, c'est pas les premiers ». Et le problème, c'est que ce ne sont probablement pas les seuls. Il y a Zuckerberg disait hier, je crois, il y a des dizaines de milliers d'applications tierces. Donc, en fait, il y a eu une dissémination assez vertigineuse de nos vies numériques.
Et oui, alors on le voit pour les services gratuits, on le voit aussi pour les services payants, puisque Grindr, qui est donc un service de rencontres gays, a, semble-t-il, monétisé, on ne sait pas d'ailleurs exactement dans quelle mesure, le statut sérologique.
Alors pour le coup, il ne les a pas monétisés. Il a partagé ces données, qui sont des données très sensibles, hein, avec des services dits d'optimisation, c'est-à-dire des services qui sont chargés de tester finalement les modifications de l'application, la manière dont elle est utilisée par les inscrits, etc. Mais la question qui se pose, c'est est-ce qu'il est... Et moi, j'avais posé la question à la CNIL, hein, d'ailleurs, à ce moment-là. La réponse qui m'avait été faite, c'est est-ce qu'il est légitime pour une application de recueillir le statut sérologique de ses utilisateurs.
Alors qu'est-ce qu'on vous a répondu ?
Il faut peut-être commencer par là. La réponse était que ça n'a rien d'évident, hein, finalement, et que devant la justice, ça mériterait probablement un débat. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'un utilisateur donne son consentement, ce qui est le cas en l'occurrence, parce qu'il faut le renseigner son statut sérologique, mais c'est pas parce qu'un utilisateur donne son consentement que c'est nécessairement légitime, parce qu'on peut pas recueillir n'importe quelle donnée pour n'importe quelle finalité.
Et alors, on voit qu'on a donc l'apparition de ce qu'on appelle le nouvel or noir, c'est-à-dire ces données qui sont donc recueillies aujourd'hui par l'État, ça c'est traditionnel, mais qui sont désormais recueillies par tous les sites sur lesquels vous êtes, des plus anodins aux sites qui concernent de manière beaucoup plus étroite votre intimité, jusqu'à des moteurs de recherche, puisque tous les moteurs de recherche, à commencer par Google, conservent des traces d'une manière ou d'une autre de vos différentes recherches, ce qui pose là aussi des questions absolument inédites à Maëlle Guiton.
Oui, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a une expression qui a été popularisée par une universitaire américaine, hein, qui s'appelle Shoshana Zuboff. Elle parle de capitalisme de surveillance, c'est-à-dire on est aujourd'hui dans une situation où le profit est construit sur le traçage et sur l'optimisation de nos comportements en ligne. Et d'ailleurs c'est intéressant de voir le vocabulaire utilisé en ce moment autour de cette histoire de Cambridge Analytica. Je lisais dans Uzbek Erika, on parlait de pacte faustien du web social, finalement, le fait d'échanger...
Lié au futur.
Voilà, d'échanger nos données personnelles contre un service gratuit. Ethan Zuckerman, qui est aujourd'hui un universitaire américain, mais qui est l'inventeur du pop-up publicitaire, vous savez, ces petites fenêtres qui débarquaient quand on cliquait sur des sites et qui étaient des fenêtres de pub, il parle carrément de péché originel du web. Donc c'est ça qui est intéressant, je trouve, avec cette histoire, c'est que effectivement c'est une mise en cause de Facebook, mais c'est aussi une mise en cause du modèle économique de Facebook, qui n'est pas que le modèle économique de Facebook, mais le modèle économique d'une grande partie du web aujourd'hui. Et in fine, c'est la mise en cause de cet échange données personnelles contre services gratuits.
Alors aujourd'hui, les pouvoirs publics se sont saisis de cette question. Hier, un rapport a été remis au secrétaire d'État chargé du numérique, Mounir Majoubi. Un rapport intitulé « Par la donnée comme infrastructure essentielle ». Il est signé Henri Verdier. Henri Verdier est administrateur général des données, parce que maintenant ça existe. C'est-à-dire qu'il a bien fallu encadrer tout cela. Et ce dont on se rend compte, à la fois donc à l'échelle française, mais aussi à l'échelle européenne avec le règlement européen sur la protection des données, c'est qu'il va y avoir deux choses en fait qui vont être potentiellement dévastatrices, c'est-à-dire d'une part ces données qui sont aujourd'hui apportées sur les différents sites qui sont donc les sites que vous consultez sans même parfois savoir d'ailleurs que ces données sont recueillies, et puis il y a la possibilité de croiser ces données, et ça c'est quelque chose de tout à fait fascinant, parce que ces fichiers, ils existent, mais ils ont une puissance inédite si on réussit à faire ce qu'on appelle des tris croisés, autrement dit, à faire en sorte que l'on sache à la fois quel est votre âge, votre profession, mais aussi le lieu où vous habitez, puisque un service comme Grindr vous géolocalise, votre statut sérologique, on en a parlé, bref. Il y a la possibilité de reconstituer un portrait robot de l'homme ou de la femme que vous êtes, dans différents buts, d'ailleurs pas forcément avouables.
C'est tout le problème de ce qu'on appelle l'anonymisation des données, par exemple. Ce qui est un terme, d'ailleurs, qui est assez critiqué par les gens qui connaissent bien le sujet, parce que on se rend compte que c'est très difficile, en fait. Et on va, entre guillemets, enlever des éléments personnels, sauf que, effectivement, comme vous le dites, hein, en reconstituant, en croisant avec d'autres sources, etc., on peut repersonnaliser les données. Et ça pose une vraie difficulté. C'est pour ça qu'on est effectivement dans une situation inédite, Le règlement général sur la protection des données qui a donc été adopté par l'Union européenne en 2016 et qui va entrer là en application fin juin. Pour le coup, c'est une première étape, mais c'est probablement pas suffisant pour régler l'ensemble des nouvelles questions que pose ce qu'on appelle la data economy, entre guillemets.
Et cette data economy, parmi les nouvelles questions, il y a des nouvelles questions. Alors, la première nouvelle question, elle est apportée par ce que l'on appelle les enceintes connectées. Et là, on a affaire aussi à d'autres recueils d'informations. Alors, ils sont faits par Google, par Amazon. Et là aussi, ils donnent lieu à la constitution de fichiers. Alors, fichiers avoués ou non, mais en tout cas, technologiquement, tout cela ne pose pas de problème, Amel Guiteau.
Ah bah, ça en pose plein. Puis alors, ça en pose un supplémentaire.
J'ai dit technologiquement que ça posait pas de problème.
Puis ça en pose un supplémentaire qui est celui de la sécurité informatique, de tout ça. C'est quand vous parlez d'objets connectés avec des spécialistes de la cybersécurité, en général, ils commencent à avoir les cheveux qui se dressent sur la tête. Bon, alors, en général, les produits Google ont l'avantage d'être sécurisés, mais enfin, c'est avec effectivement tous ces objets connectés qui vont se développer dans notre quotidien. Ça va être la caméra, ça va être le babyphone, ça va être, je sais pas, le réfrigérateur, ou même le four, etc. On voit que les objets connectés très, très, très grand public, en prime, en général, sont très mal sécurisés, et y compris d'ailleurs, servent façon piratée pour être, entre guillemets, enrôlés dans des attaques massives sur le web. Donc il y a aussi cette question-là. Mais effectivement, c'est en plus, l'objet connecté, il est dans notre quotidien, qui recueille des informations, mais il recueille des informations pour le coup de manière quasiment indolore et sans qu'on s'en rende compte. Enfin, c'est la fameuse enceinte Google. En fait, elle a un voyant lumineux quand elle ne fonctionne pas. Mais quand elle fonctionne, au bout d'un moment, enfin, c'est comme une caméra, on peut aussi l'oublier. Oui.
Et on voit par exemple l'utilisation qui est faite de cela en Chine avec une technologie qui est une technologie là aussi redoutable, qui est la reconnaissance faciale, qui pose une question donc de traçabilité dans des limites absolument inconnues jusqu'ici.
Bah, c'est aussi pour le coup aux États, enfin les entreprises qui sont le plus en avant sur tout ce qui est reconnaissance vocale ou faciale, c'est précisément Facebook et Google. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, la technologie qui est très utilisée en intelligence artificielle pour développer tout ça, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage profond. Et c'est une technologie qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de données. Et ils ont énormément de données. Donc effectivement, ils sont eux-mêmes très en pointe. Alors, il y a toujours ce discours aussi entre guillemets, du bien commun atteint par l'entreprise, qui est le discours traditionnel de la Silicon Valley. Donc Facebook et Google, et même Apple, mettent ça très en avant. Mais le développement de ce type de
c'est
technologie...
C'est un discours qui est pur marketing.
Je suis pas sûre, c'est-à-dire que je pense qu'ils en sont pour une partie d'entre eux au moins convaincus. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que je ne mésestime jamais la capacité de la Silicon Valley à s'auto-aveugler. C'est petite anecdote, en travaillant sur cette histoire de Cambridge Analytica, je suis retombée sur la une de la revue du MIT. Alors bon, pour le coup, qui est sur la côte est, le Massachusetts Institute of Technology
de
Boston.
Donc une université.
Voilà, donc il y a une revue, la MIT Technology Review, j'ai regardé le numéro de janvier 2013 et la couverture, c'était « Big Data will save politics ». Autrement dit, le Big Data va sauver la politique. On était juste après la campagne d'Obama, il y avait un enthousiasme fou pour le micro-ciblage dans les campagnes électorales. 5 ans plus tard, on voit où on en est.
Et justement, il y a un aveu qui a fait frissonner beaucoup d'utilisateurs de Facebook. C'est l'aveu de Chamath Palihapitiya, qui est vice-président en charge de la croissance du nombre des utilisateurs de Facebook. Et lui a dit tout le mal qu'il pensait des réseaux sociaux. On l'écoute.
Je peux contrôler les choix de mes enfants. Ils ne sont pas autorisés à utiliser cette merde. Je me sens extrêmement coupable. Nous avons créé des outils qui déchirent le tissu social sur lequel est fondée notre société. C'est vraiment là où nous en sommes. Vous n'en avez pas conscience, mais vous êtes programmé. Ce n'était pas intentionnel. Maintenant, c'est à vous de décider à quel point vous êtes prêt à renoncer à votre indépendance intellectuelle. Nous organisons notre vie autour de cette fausse image de la perfection, parce que nous sommes récompensés par des signaux instantanés, cœurs, likes, pouces bleus, et on leur donne de l'importance. Et on les confond avec la vérité. C'est juste mauvais.
C'est vrai, Amel Guiton, que l'apparition des réseaux sociaux a modifié profondément la sociabilité. On le voit bien sur le plan anthropologique. Il y a eu une véritable révolution. L'État essaye de sécuriser tout cela avec des buts qui sont d'ailleurs des buts tout à fait contradictoires, puisque dans le rapport qui a été remis hier à Mounir Majoubi, j'ai pu voir, par exemple, qu'il y avait à la fois le souhait d'améliorer la circulation des données, donc faire de l'open data, permettre à tout le monde de regarder les différentes données collectées et de préserver l'anonymat. Et moi, j'aimerais bien qu'on m'explique comment on fait l'un et l'autre, sachant que si l'on peut croiser des fichiers, c'est la fin de l'anonymat.
Bah après, il faut aussi faire un distinguo entre les données publiques et les données privées. On peut trouver que c'est quand même une évolution positive le fait qu'il y ait de plus en plus de données publiques et qu'effectivement il y ait de plus en plus de transparence de l'État. Alors après, il y a effectivement pas mal de questions qui se posent sur les données des entreprises. En revanche, la tendance quand même sur les données personnelles en Europe et en France, c'est un renforcement de la protection. Enfin là, en ce moment, le Parlement discute justement de la transposition. Enfin, pas de la transposition, puisque ce fameux règlement européen, il est, comme on dit, d'application directe, mais en tout cas d'une mise à jour de la loi informatique et liberté en fonction de ce qu'il y a dans le règlement européen sur la protection des données.
Mais là aussi, c'est toujours en fait quelque chose qui est à double tranchant, puisque toujours dans ce même rapport, il était question, par exemple, des données relatives aux chômeurs. Et alors, il était dit que ces données allaient permettre de mieux combattre le chômage. Et donc, on voit en fait dans quelle mesure eh bien, il peut y avoir véritablement des effets secondaires à ce genre de mission, même si, évidemment, on est tous pour la réduction du chômage.
C'est valable sur cette question-là, comme aussi sur la question des données de santé, hein, qui est un débat assez vif en ce moment, parce qu'on est avec, dans les données de santé, on est en plus sur des données sensibles. Évidemment, il y a beaucoup de structures privées qui regardent avec intérêt tout ça et qui aimeraient y avoir accès. C'est plutôt quelque chose, y compris qui me semble assez encouragé par les pouvoirs publics, ce qui pose de vraies questions, parce que là, pour le coup, c'est pareil, hein, sur la repersonnalisation, on est en plein dans cette difficulté-là. Donc, on voit bien, en fait, à quel point on est au début de tout ça, et c'est vrai que finalement, Internet, c'est pas très vieux, le web, ça l'est encore moins, le big data, c'est encore plus jeune, et on voit bien qu'on va affronter des... Il y a 5 ans, on n'imaginait pas forcément tout ce qui se passe autour de Facebook. Enfin, il y avait déjà des gens qui disaient ce modèle économique est problématique et quand c'est gratuit, c'est vous le produit, hein, cette fameuse phrase. On n'imaginait probablement pas la manière dont ça se passe aujourd'hui. Et je pense qu'on va aller probablement de difficulté en difficulté et de drame de la donnée en drame de la donnée. Oui.
Est-ce qu'on pourrait imaginer, ce sera ma dernière question à Amel Guiton, la fin de la gratuité ou en tout cas la modification du modèle économique, puisque on voit bien de toute façon que si l'on veut en finir avec l'utilisation de ces données, il faudrait à minima qu'il y ait donc une autre possibilité pour ces entreprises de monétiser, puisque ce ne sont pas des philanthropes, à moins bien sûr que l'on fasse aujourd'hui des communs autour de ces données, puisqu'on pourrait imaginer aussi que ces données deviennent des communs, comme l'eau par exemple, comme les routes, des infrastructures qui seraient des infrastructures publiques.
Alors, la fin de ce modèle économique dans l'immédiat, je pense que ça prendra plus de temps que ça. En tout cas, moi je trouve très intéressant la manière dont le débat émerge, et effectivement la manière, y compris dont la question est posée aujourd'hui, c'est-à-dire que ça fait quand même plusieurs années qu'on s'est rendu compte que une entreprise comme Facebook, finalement, elle a créé sa propre mission, mais elle exerce aujourd'hui quasiment un service public de fait. Donc il va aussi falloir se poser la question de cette manière, et effectivement il faut probablement que la puissance publique non seulement intervienne sur la protection des données, et on voit d'ailleurs aux États-Unis qu'il commence à y avoir un intérêt pour ces textes de la vieille Europe, finalement, dont certains commencent à se dire qu'elle avait plutôt eu du nez sur cette affaire-là. Mais il faudrait aussi probablement pousser véritablement au développement d'infrastructures alternatives, de modèles alternatifs. Ouais.
Effectivement, merci beaucoup Amel Guiton de nous avoir éclairé sur la question de l'utilisation des données suite au scandale Cambridge Analytica, l'utilisation donc de données privées sur Facebook.